moi. Je vais prier pour introduire ce message. Seigneur, nous te remercions vraiment de cette nouvelle occasion que tu nous offres ce matin de partager ta parole, Seigneur, de te louer, de t'adorer, d'essayer de te connaître encore plus, Seigneur. Nous te remercions vraiment pour cette communauté, pour cette Église. Nous te demandons de bien vouloir être avec nous, de bien vouloir bénir ce message, Seigneur, et qu'il n'y ait que tes paroles qui sortent de ma bouche et aucune de ma chair, Seigneur. Nous savons que tu es au milieu de nous et nous t'en remercions. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, alors ce matin, j'aimerais qu'on lise un passage. C'est un passage dans lequel on va revenir pas mal de fois. Et donc, on va le lire en entier, et puis on répétera quelques parties. Donc, c'est dans Jacques, au chapitre 1, les versets 1 à 15. Jacques 1, 1 à 15. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dans la dispersion, salut. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, et qu'il ne vous manque de rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche. Et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, parvenu à son terme, engendre la mort. La première partie de ce message nous parle des épreuves dans lesquelles nous pouvons passer. Et il nous dit de considérer ces épreuves comme un sujet de joie. Mais quel sujet de joie ? C'est parfois difficile à comprendre, surtout quand on traverse ces épreuves. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, d'une part, ça peut représenter des épreuves physiques, tangibles, que nous avons dans nos vies. Imaginons une vie où nous n'avons jamais d'épreuves, où nous ne subissons aucun mal, aucune douleur, aucun souci. Eh bien, on passerait notre temps à nous plaindre de petits bobos. J'ai le dos calé. Dans mon nouveau boulot, je gagne 100 euros de moins qu'à mon ancien job. Alors bon, si on dit ça à quelqu'un qui a eu une hernie discale, par exemple, ou bien si on dit ça à quelqu'un qui a perdu son travail, ils vont vous rire au nez. Si je me plains que l'étude biblique n'était pas claire, eh bien, qu'est-ce que dirait un chrétien qui est dans un pays persécuté et qui n'a peut-être qu'un seul évangile à lire, même pas une Bible complète, encore moins de réunion d'études? Si je me plains d'avoir été malade pendant 2 semaines, que dira quelqu'un qui est malade pendant 2 ans? Alors, je ne dis pas ça pour minimiser les douleurs et les épreuves, parce que chacun en traverse et au final, on a tous une mesure de ces épreuves différentes. Mais ce que je veux dire, c'est que les personnes qui sont passées par des épreuves, mais ils ont eu des renavants, une vision différente de la vie. ils auront acquis une patience particulière dans ces situations. Si on reprend les exemples que je viens de donner, eh bien, si on passe par un moment de notre vie où nous sommes dans une extrême pauvreté, eh bien, 100 euros de moins par mois seront très relatifs au final. Si nous-mêmes nous sommes passés par 2 ans de maladie, eh bien, les 2 prochaines semaines de maladie que nous aurons nous sembleront bien peu. On pourrait donc dire que sans épreuve, au final, on se plaindrait tout le temps, pour rien. Nous voudrions tout, tout de suite, nous manquerions de patience, en se plaignant du moindre petit tracas que nous pourrions rencontrer dans la vie. Et pourtant, cette définition, elle me rappelle un petit peu parfois comment est-ce que je me plains. Je m'y retrouve assez bien, à me plaindre de toujours de toutes petites choses. Alors ce principe, on le retrouve aussi de la bouche de Jésus dans Matthieu 19 à 24. Chapitre 19, verset 24. Je vous dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et qui est le riche dans ce passage ? On peut imaginer que c'est quelqu'un qui a tout, qui n'a jamais manqué de rien. Il a probablement une santé supérieure à la moyenne parce qu'il a les moyens de s'offrir un bon médecin. Quelle vie facile il a eue par rapport à tous les contemporains de Jésus, par rapport à toutes les personnes que Jésus a rencontrées, a soignées. Dieu veut des enfants patients, accomplis, marchant selon sa volonté et ne s'arrêtant pas sur les petites embûches de la vie. Et d'ailleurs, même dans la vie de tous les jours, au jour d'aujourd'hui, on retrouve qu'il est bien plus simple d'évangéliser, de parler de Dieu à quelqu'un à qui il manque des choses. Les personnes qui ont tout dans la vie, qui sont riches, qui n'ont jamais d'épreuves, ou beaucoup moins que les autres peut-être, eh bien parfois ils peuvent se dire « Mais pourquoi est-ce que j'aurais besoin de Dieu ? J'ai tout dans cette vie. » Alors nous, on le sait pourquoi on a besoin de Dieu. C'est parce que cette vie n'est que un laps de temps très très faible par rapport à l'éternité qui nous attend. Mais voilà pourquoi il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Parfois, nous avons besoin d'épreuves pour pouvoir avoir cette patience. Alors, dans ma Bible, il était indiqué une petite note sur le verset 2, qui est « Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pourrez rencontrer. » La note disait que ce passage pouvait également se traduire « Considérez les tentations dans lesquelles vous pourriez tomber comme un sujet de joie. » Alors cela apporte aussi une profondeur différente à l'écriture. Parce qu'alors on peut considérer des épreuves peut-être spirituelles. On pourrait se dire, le combat du chrétien, c'est de se refuser à la tentation, pas d'y tomber. Donc pourquoi considérer cela ? Pourquoi considérer ces tentations dans lesquelles nous pourrions tomber comme un sujet de joie ? Eh bien, d'une manière similaire, les tentations que nous pourrions ressentir produisent une résistance, une patience dans notre vie. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu des tentations, des péchés récurrents. Eh bien, on y tombe souvent. Dans un premier temps, il est difficile d'y résister. Mais à force de les rencontrer, à force d'être tenté, eh bien, on commence à connaître les éléments déclencheurs, peut-être. Ah, c'est à chaque fois que je suis avec cette personne que j'ai ces mauvaises pensées, peut-être. Ou bien, c'est à chaque fois que je passe trop de temps sur Internet que je tombe dans tel ou tel péché. Une fois qu'on connaît ces déclencheurs, eh bien, il peut être plus facile d'y résister. On peut éviter ces situations, ou bien ces personnes. On peut demander à des frères de prier pour nous quand on a un péché récurrent pour lequel nous connaissons comme fragile. Et on peut nous-mêmes prier régulièrement pour que Dieu nous apporte son aide dans ce péché en particulier. Et Jacques ne dit pas « Réjouissons-nous de tomber dans le péché », bien entendu. Mais bien, est-ce que tu tombes dans le péché parfois ? Est-ce que tu as une tentation récurrente ? Eh bien, relève-toi Réjouis-toi parce que tu auras plus facile à y résister la prochaine fois. Tu auras gagné en patience. Face à la tentation, réjouissons-nous donc parce que nous savons qu'en Jésus-Christ, nous avons déjà gagné et nous allons apprendre de cette tentation pour ne plus y tomber. Paul rappelle aussi cette vérité dans Romains, chapitre 5, versets 3 et 4. Bien plus, nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. On voit donc un cheminement logique, exprimé ici par Paul. Une épreuve nous apporte la persévérance la fidélité, et la fidélité l'espérance. Et en réalité, on pourrait même parler du doute que nous pourrions avoir. Le doute est une sorte d'épreuve spirituelle, et moi-même, il m'est arrivé de douter de Dieu et de sa bienveillance. La fameuse question que l'on entend souvent dans les milieux athées, comment Dieu pourrait exister alors qu'il y a tellement de souffrances dans le monde? Eh bien, réjouissons-nous parce que Dieu a une réponse pour nous. Je me suis posé la question, j'ai cherché la réponse dans la Bible, dans la littérature chrétienne, et ça a renforcé ma foi. J'ai gagné en sagesse, en patience, en confiance en Dieu. Et donc on pourrait dire que plutôt que de chercher désespérément à éviter l'épreuve, on peut l'aborder avec Dieu. Si on remet ces épreuves sous l'œil de Dieu, avec l'aide de Dieu, on en sortira grandi. Et le passage nous dit que nous en ressortirons plus patients. Le verset 3 dit « Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. » Et il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite afin que vous soyez parfaits, accomplis et qu'il ne vous manque de rien. La patience, elle est souvent associée à la sagesse. Quelqu'un de sage, par exemple comme Francis, eh bien, il est très patient. Et l'Ecclésiaste, au chapitre 7, versets 8 à 9, écrivait « Mieux vaut l'aboutissement d'une affaire que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ne te presse pas d'être mécontent dans ton esprit, car le mécontentement repose dans le sein des insensés. » Ne te presse pas d'être mécontent dans ton esprit. On revient un petit peu à ce que j'expliquais au début, qu'on se plaint trop souvent. Et l'Ecclésiaste lui-même le disait, il ne faut pas se presser à être mécontent. Il faut éprouver de la patience dans les épreuves. Et Jacques lui-même, plus loin dans son épître, au chapitre 5, versets 7 à 11, disait « Prenez donc patience, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici que le laboureur attend le précieux fruit de la terre, plein de patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi prenez patience, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici que le juge se tient devant la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont tenu ferme. Vous avez entendu parler de la fermeté de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. » Ici, il compare la patience et la fermeté que nous devrions avoir à celle des prophètes et à celle en particulier de Job. On se souvient de Job, Satan lui a tout pris, enfant, richesse, renommée, tout. Mais Dieu le savait, assez patient que pour résister dans sa foi à tout cela. Est-ce que moi, si Dieu regardait ma patience, il pourrait se dire « Oui, Anthony, je peux tout lui retirer dans sa vie. Il me sera fidèle. Je ne suis pas sûr. Considérons donc les épreuves qui nous arrivent comme une occasion de raffermir notre patience. Et donc, Job, sa patience lui a permis de tenir bon dans sa foi. Et la patience est également un fruit de l'esprit, nous le savons. C'est quelque chose qui se produit naturellement quand nous mettons toute notre attention, tout notre regard sur Dieu et pas sur les choses du monde. Colossiens 1, 10 à 11 dit « Marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue, portez des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissez dans la connaissance de Dieu. Devenez puissants à tous égards par sa force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérants et patients. » Croître dans la connaissance de Dieu afin de devenir persévérants et patients. Tous ces passages nous montrent au final que la patience est nécessaire à la persévérance et qu'elle croît en même temps que notre connaissance de Dieu. Pour cette première partie, nous pouvons conclure que ces épreuves dans lesquelles nous pouvons passer nous rendent plus sages, nous donnent de la patience et nous conduisent vers la route que Dieu veut que nous empruntions. Et au final, vers la personne que Dieu voit en nous. Nous savons que Dieu voit un chemin juste et parfait pour chacun de nous et que nous avons une part de responsabilité aussi pour emprunter ce chemin que Dieu veut pour nous. Le verset 4 dit « Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite afin que vous soyez parfaits et accomplis et qu'il ne vous manque de rien. » Et alors à ce moment-là, dans l'analyse du passage, on pourrait se dire, et moi je me suis posé la question, mais enfin, si l'objectif c'est que nous ne manquons de rien, comment est-ce qu'on va avoir d'autres épreuves pour pouvoir être plus patient? Et si je prends un exemple concret d'épreuve, par exemple le manque d'argent, on pourrait passer dans notre vie par un moment où l'argent nous manque. Et donc le passage nous dit, si je manque d'argent, je deviendrai patient à ce sujet afin de ne plus manquer d'argent. Et comment comprendre ça? Il y a deux façons de le comprendre. On pourrait comprendre de manière terre à terre, c'est-à-dire une fois que je manquerai d'argent, je serai patient d'argent, et puis je serai riche à millions, je ne manquerai plus jamais d'argent. À millions, à milliards. Voilà. La deuxième façon de le comprendre, c'est... Une fois que je serai patient d'argent, eh bien je ne ressentirai plus ce manque d'argent. J'arrêterai peut-être de m'en plaindre, je redirigerai mes pensées vers le royaume de Dieu, vers les choses de Dieu, que j'ai de l'argent en abondance ou pas, finalement. À votre avis, quelle compréhension est la bonne? Est-ce que Dieu nous promet d'être riche à millions si jamais nous sommes pauvres à un moment dans notre vie? Eh bien, certaines églises le pensent. On appelle ça en général des églises qui prônent un évangile de prospérité. Leur message principal est ceci : si tu crois, tu ne seras jamais malade. Si tu crois, tu seras riche. Si tu crois, tu seras supérieur aux non-croyants. Nous savons que c'est un évangile qui est faux, qui est corrompu. Rien qu'avec deux passages que nous avons déjà lus aujourd'hui, nous pouvons prouver que ce n'est pas la pensée de Dieu. Nous avions lu dans Matthieu 19 qu'il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Nous avons lu dans le passage principal d'aujourd'hui, Jacques 1, que le riche se desséchera, que sa fleur est tombée, que la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises et que le riche doit se glorifier de son humiliation. Et donc comment considérer comme un sujet de joie les épreuves de nos vies, au final, si nous n'avons pas ces épreuves? Attention, je ne dis pas que on ne peut pas être chrétien et en bonne santé, ou alors qu'on ne peut pas être béni par Dieu et devenir riche à millions. Nous savons que Dieu peut bénir aussi dans ces sujets-là. Mais donc, le passage dit bien que le frère de condition humble se glorifie de son élévation et que le riche se glorifie de son humiliation. Croire dans cet évangile de prospérité peut être très dangereux pour l'âme. Il attire énormément de faux prophètes et de personnes attirées par l'argent. Les églises prônant la prospérité arrivent à convaincre leurs fidèles de donner énormément d'argent pour des causes parfois douteuses, donner des dizaines de millions afin d'acheter plusieurs jets privés, dans le but de ne pas devoir attendre un avion de ligne quand l'église veut aller évangéliser quelque part. On voit aussi des exemples où les églises achètent tout le quartier aux alentours afin d'être plus libres de leur mouvement, du bruit qu'ils font, peut-être. Est-ce que ce but-là, est-ce que l'utilisation de l'argent dans ce but-là est justifiée? Peut-être, mais ce qui pose problème, c'est qu'en contrepartie de ces dons faramineux, l'Église promet titre, promotion, gloire à ses fidèles. Et si jamais il n'y arrive pas, que les personnes restent malades ou bien que les personnes restent peut-être en manque d'argent, eh bien elle peut toujours blâmer ses fidèles. Parce que c'est surtout le complément qui est dangereux dans l'évangile de prospérité. Si tu es malade ou pauvre, ça veut dire que tu ne crois pas assez, ou bien tu ne t'es pas assez repenti, pas assez proche de Dieu, etc. Bien que dans certains cas, ça peut être vrai, ce n'est vraiment pas certain. Ce n'est vraiment pas une suite logique. De la même manière que Dieu peut bénir quelqu'un avec beaucoup d'argent, ou une santé de fer, ce n'est pas le cas de tout le monde, et surtout pas une conséquence logique d'un manque de foi. Mais si Dieu ne nous promet pas d'être riche, ou il ne nous promet pas d'être en parfaite santé, que faire face aux épreuves? Eh bien, on peut regarder les versets 5 à 8 de Jacques 1. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Alors on voit à de multiples reprises dans la Bible que Dieu nous encourage à prier pour recevoir sa sagesse. Et ici, on voit un aspect supplémentaire, demandons sans douter. On se dit alors, je vais demander à Dieu de la sagesse, mais peut-être qu'il ne me la donnera pas, ou peut-être pas autant qu'il l'a donné à Salomon. Eh bien, la parole nous dit qu'on ne devrait pas faire ça. Et si on doit prier en étant sûr de recevoir, alors les églises de prospérité arrivent dans leur jet privé pour me dire « Eh bien, si je demande à Dieu 5 millions d'euros et que je suis sûr qu'il va me les donner, il me les donnera. » Mais on peut répondre avec deux éléments à cela. L'exemple dans le passage, c'est la sagesse. C'est loin d'être une chose de matériel. Et deuxièmement, on peut prendre un autre passage, 1 Jean, au chapitre 5, donc la première épître de Jean, au chapitre 5, versets 12 à 15. « Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Cela je vous l'ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Donc nous avons l'assurance qu'il nous écoute lorsque nous prions selon sa volonté. Et dans ce cas, quelle que soit notre demande, selon sa volonté, il nous exaucera. Et pendant longtemps, je me suis demandé, mais comment Est-ce qu'on peut à la fois croire à 100% que nous allons recevoir quelque chose du Seigneur et être sûr aussi à 100% que ce soit sa volonté? Peut-être que Dieu veut que je passe par une épreuve donnée plus longtemps que moi je ne le voudrais. Et la réponse, elle est simple, mais elle demande de la discipline. La première chose que l'on peut faire, c'est bien sûr prier pour la sagesse de Dieu, pour recevoir sa sagesse. Parce qu'avec sa sagesse, nous saurons ce qui est sa volonté ou non. Et ensuite, eh bien, on peut construire la relation qu'on a avec Dieu. Mehdi nous l'a déjà rappelé dans l'un de ses enseignements. Au plus on apprend à connaître une personne, au plus il est facile de prédire ce qui lui plairait ou non. Eh bien, il en va de même avec la personne de Dieu. Bien sûr, nous avons sa parole, et donc lire, apprendre, méditer la parole de Dieu nous aide à connaître sa volonté, mais aussi passer du temps entre frères et sœurs en Christ, car en profitant de la sagesse acquise par nos frères et sœurs, nous pourrons connaître mieux Dieu et sa volonté. C'est une richesse d'avoir une communauté comme la nôtre, des communautés de prière, des communautés dans lesquelles nous parlons de l'évangile de Dieu. Participer activement aux choses de Dieu également nous aide à connaître Dieu. Prendre part aux choses de l'organisation de l'Église, par exemple, prendre part aux réunions de prière, aux réunions d'études, à des événements d'évangélisation, tout ça nous aide toujours plus à connaître Dieu et à connaître sa volonté. Et enfin, nous pouvons aussi simplement prier selon la volonté de Dieu. C'est-à-dire, prier Dieu que ta volonté soit faite. Jésus lui-même, sur le mont des Oliviers, pria pour que la volonté du Père se fasse. Nous l'avons encore rappelé dans ce culte, Jésus s'est fait pleinement homme. Bien que pleinement Dieu, il était pleinement homme. Et donc, il a lui-même connu cette dualité entre épreuve qu'il pourrait avoir, l'épreuve de la croix qui est la plus grande de toutes, et donc sa volonté humaine qui était de ne pas y passer, mais il était bien conscient que c'est la volonté de Dieu qui doit se faire. Et donc dans Luc, au chapitre 22, verset 42, nous lisons « Jésus priait en disant, « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Si à un moment dans notre vie, nous ne connaissons pas les plans de Dieu par rapport à une épreuve en particulier par laquelle nous pourrions passer, rien ne nous empêche de prier en ce sens. Dieu, s'il te plaît, éloigne de moi cette épreuve, mais que ce soit ta volonté qui soit faite, pour sa gloire. Enfin, la dernière partie de cette lecture, c'est les versets 12 à 15 qui nous parlent de la tentation. Heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, oui, et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté, parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Le péché parvient à son terme, engendre la mort. C'est un peu la conclusion de tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Oui, le chrétien subira des épreuves, des tentations, et on y tombera même. Mais on se relève. On endure la tentation. On acquiert la patience et enfin, on reçoit la couronne de vie. Et on voit au final que le cheminement logique ici de la tentation vient un peu à l'inverse du cheminement logique que Paul nous disait tout à l'heure. C'est-à-dire que la convoitise conçoit le péché conçoit la mort. Et Paul nous disait, l'épreuve nous conduit vers la persévérance vers la fidélité et vers l'espérance. Donc en fait, on a deux façons de voir les épreuves. Soit on considère ça comme étant le fruit d'une convoitise et qu'on ne peut rien y faire, auquel cas ça mènera au péché qui nous mènera à notre ruine. Soit on peut voir ça comme une épreuve qui est à aborder avec Dieu et qui produira de la persévérance, ensuite de la fidélité et enfin vers l'espérance de Dieu. La suite du passage est importante aussi, parce qu'elle rappelle que ce n'est pas Dieu qui produit la tentation. Ça peut être notre propre convoitise. Ce n'est pas nécessairement Satan, ni ses démons, c'est notre propre convoitise. Elle conduit au péché et à la mort. Mais bien sûr, nous connaissons la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il est mort pour nous, pour notre péché, à cause de notre convoitise. Et si nous mettons notre espoir en lui, si nous nous remettons toutes nos difficultés en lui, nos fautes à ses pieds, il nous sauve de la mort. En conclusion, si je suis dans l'épreuve ou dans une situation de péché récurrente, que je ne me plaigne pas, que je ne considère pas cela comme étant une finalité en soi, je ne peux rien y faire et voilà, je dois y passer. Mais que l'on puisse y voir, grâce à la sagesse de Dieu, en lui demandant sa sagesse, une occasion de renforcer notre foi, une occasion de renforcer notre témoignage, notre relation avec lui, et de parfaire notre processus de sanctification. Amen.